Et c'est l'heure du journal avec Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. En Espagne, le socialiste Pedro Sánchez devient chef d'un gouvernement dont la fragilité saute aux yeux et dont les orientations paradoxales vont sans doute satisfaire, au moins pour un temps, les indépendantistes, notamment en Catalogne, analyse de Marie-Hélène Ballestero et de Marie-Pierre Véro. Dans ce journal également, l'autre installation gouvernementale en Italie, Giuseppe Conte vient de prêter serment et devient donc officiellement chef du gouvernement de la deuxième économie de la zone euro. Reportage de Mathilde Imberti. La guerre commerciale aux répliques relativement violentes en Amérique du Nord, entre USA et Canada. Grégory Phillips nous attend en direct de Washington. Et puis l'actualité en France, dans ce journal, avec l'enquête de cette édition notamment, et les pratiques, les pouvoirs des lobbyistes. Ce sera avec Marjolaine Corr. Le retournement de situation aura pris une grosse semaine et se révèle tout à fait inédit. En Espagne, un nouveau gouvernement va devoir se mettre en place suite à la sortie peu glorieuse ce matin à l'issue d'un vote d'une motion de censure de Mariano Rajoy. Son successeur s'appelle Pedro Sánchez, il est socialiste et il se retrouve à la tête d'une majorité pour le moins instable, à tel point que la question de la composition du gouvernement qui va devoir se faire là dans les jours prochains, cette question est loin d'être anodine, tout comme la question de la participation ou pas de Podemos à ce gouvernement. À Madrid, Marie-Hélène Ballestero.
La question clé désormais est de savoir comment va pouvoir gouverner le socialiste Pedro Sánchez à la tête d'une majorité très hétéroclite et à quoi va bien ressembler son gouvernement. Pedro Sánchez doit encore prêter serment devant le roi Felipe VI. Selon les médias espagnols, cela pourrait se produire demain, même si la maison royale n'a rien confirmé, comme le souligne le quotidien El País. Lorsque le leader socialiste prêtera serment devant le monarque, il devra lui faire part de la composition de son gouvernement. Pour l'instant, on ignore donc à quoi ressemblera ce nouvel exécutif, même si l'on en croit Margarita Robles, la porte-parole des socialistes au Congrès des députés, ce gouvernement sera 100% socialiste, c'est-à-dire sans aucun membre du parti Podemos. Elle a ajouté à la mi-journée, je ne pense pas qu'il y ait de la place pour Pablo Iglesias, mais c'est une décision que doit prendre le chef du gouvernement. C'est donc Pedro Sánchez qui doit désormais se prononcer. De son côté, le leader de Podemos, Pablo Iglesias, a déjà pris les devants. L'Espagne a besoin d'un gouvernement stable, fort, qui offre des garanties à l'Union européenne, a-t-il avancé, un gouvernement selon lui qui puisse mettre en place un programme propre d'un gouvernement progressiste avec une majorité parlementaire d'au moins 156 députés. Autrement dit, Podemos souhaite clairement faire partie du nouvel exécutif espagnol.
Marie-Hélène Ballestero depuis Madrid. En Catalogne, et toujours en Espagne donc jusqu'à preuve du contraire, c'est demain que le prochain gouvernement indépendantiste de Joaquim Torra, gouvernement présenté aujourd'hui, doit prendre ses fonctions. Étrange, bien que fortuite articulation avec l'actualité madrilène. Bonsoir Marie-Pierre Véro.
Bonsoir.
Dans cette étonnante séquence politique espagnole, les cartes sont décidément totalement rebattues aujourd'hui et les voiles indépendantistes possiblement regonflées.
En tout cas, vu les relations exécrables qu'entretenait Mariano Rajoy avec les indépendantistes catalans, ces derniers ne peuvent que se féliciter de sa chute, mais il convient de rester prudent. L'enthousiasme est d'ailleurs mesuré en Catalogne. Ces derniers mois, le Parti Socialiste Espagnol a en effet fait corps avec le Parti Populaire contre les indépendantistes. Il a soutenu la mise sous tutelle de la Catalogne, l'imposition du fameux article 155. Personne ne l'a oublié. Il va falloir panser les plaies toujours vives. Il y a une dizaine de jours à peine, Pedro Sánchez qualifiait le nouveau président catalan, Quim Torra, de Le Pen de la politique espagnole, l'accusant de racisme anti-espagnol. Hier, il a donc entrepris de commencer à recoller les morceaux, promettant de jeter des ponts avec la Catalogne pour résoudre le problème politique sans se cacher derrière les tauges des juges. Il dit croire que l'Espagne est une nation dans laquelle des territoires se sentent aussi nation. Avant de lancer, ce gouvernement souhaite que la Catalogne soit en Espagne, mais il écoutera la Catalogne. Des prises de position que salue le PDCAT, le Parti démocrate de Catalogne, tout en disant son scepticisme, quand la gauche républicaine catalane, elle, précise que son soutien à la motion de défiance est un rejet du Parti populaire et non un soutien au Parti socialiste. Minoritaire au Parlement, la marge de manœuvre de Pedro Sánchez est de toute façon étroite, encore plus parce que son parti lui-même est très divisé sur cette question. Pas question donc d'amender la Constitution. La Vanguardia reste d'ailleurs modeste dans ses ambitions. Il dispose d'environ un an avant de nouvelles élections, estime le quotidien catalan. C'est peu pour résoudre la crise catalane, mais suffisant pour faire bouger les choses, au moins pour amorcer le dialogue.
Merci Marie-Pierre Véro. En Italie, les inclinaisons politiques majoritaires du moment sont désormais plus lisibles. Et c'est un gouvernement tout à fait conforme à ce qu'on attendait ces derniers jours qui a été officiellement investi cet après-midi. L'alliance de la Ligue d'extrême droite et des populistes du mouvement 5 étoiles a donc désormais une réalité politique tangible. Elle penche très fortement à droite. Et la galerie de portraits, bien sûr, est à l'avenant. Reportage à Rome de notre envoyée spéciale permanente Mathilde Imberti.
Une prestation de serment cet après-midi dans les règles de l'art pour un gouvernement totalement inédit. Le premier à s'avancer vers le chef de l'État, Sergio Mattarella, est Giuseppe Conte, le président du Conseil, juriste de 53 ans, totalement novice en politique.
Je jure d'être fidèle à la République, d'en respecter loyalement la Constitution et les lois, et d'exercer mes fonctions dans l'intérêt exclusif de la nation.
À la suite de Giuseppe Conte, les deux ténors de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, prêtent à leur tour serment. Ils sont vice-présidents du Conseil, des piliers d'un exécutif que se sont partagés les deux formations politiques. Pas de parité homme-femme, sur 18 ministres, il y a 5 femmes. Hors du palais présidentiel et de sa solennité impressionnante, les ministres 5 étoiles posent façon selfie collectif. Grand sourire, soleil romain rayonnant, la formation anti-système a su conquérir un électeur sur 3 en mars dernier et devenir le premier parti d'Italie. Elle accède enfin au pouvoir central. C'est l'une des images marquantes de ce 1er juin en Italie.
Mathilde Imberti à Rome. Le sujet très polémique des droits de douane enflamme depuis des semaines maintenant les relations diplomatiques entre les États-Unis et ses voisins, notamment en Amérique du Nord. Et la situation autour de la frontière canadienne semble être de plus en plus sensible. Ce qui a poussé Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, à annoncer hier des mesures de rétorsion vis-à-vis des États-Unis et à annuler un rendez-vous la semaine prochaine avec Donald Trump. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Benoît.
Vous êtes avec nous en direct de Washington. Ce matin, dans un tweet, Donald Trump, le président américain, a accusé le Canada de très mal traiter, je cite, les agriculteurs américains. L'air de dire un peu comme à son habitude, c'est pas moi qui a commencé.
Oui, avec le voisin canadien Donald Trump, il va fort. Voici ce qu'il écrit: pendant très longtemps, le Canada a très maltraité nos agriculteurs. Ils sont très restrictifs sur le commerce. Ils doivent ouvrir le marché et abattre leurs barrières commerciales. Le message à destination du premier partenaire commercial des États-Unis est donc sans ambiguïté. Et il intervient au lendemain de la décision de l'administration américaine de taxer les importations canadiennes d'acier et d'aluminium, comme pour l'Europe, respectivement à 25 et 10%. Trudeau est furieux, lui qui devait venir la semaine prochaine ici à Washington pour acheter fait les négociations sur l'ALENA, vous savez, l'accord de libre-échange entre Mexique, Canada et États-Unis. Eh bien, il annule son déplacement. Apparemment, le premier ministre canadien a pris cette décision après un coup de téléphone mardi soir du vice-président américain Mike Pence, qui l'a informé que les États-Unis voulaient un nouvel accord ALENA, mais avec une durée de 5 ans maximum. Inacceptable pour les Canadiens, tout comme les taxes sur les exportations d'acier et d'aluminium sont inacceptables. Trudeau rappelle que les deux pays sont amis depuis 150 ans, des alliés fidèles, et que faire de ces importations une question de sécurité nationale pour les États-Unis est inconcevable. Bref, entre les deux alliés historiques, il y a vraiment un énorme désaccord. Le Canada, vous l'avez dit, a immédiatement répliqué en annonçant des taxes nouvelles sur les produits américains à hauteur de 13 milliards de dollars US. Et le sujet sera forcément sur la table du G7 qui se tient dans une semaine au Québec précisément, où Trump et Trudeau auront sans doute pas mal de choses à se dire.
Merci Grégory Phillips. La démission du patron du groupe Petrobras, on l'a appris cet après-midi, Pedro Parente jette l'éponge. Il paye l'effet des grèves dans le secteur du transport routier et dans l'industrie pétrolière du Brésil. Les grévistes protestent depuis 10 jours contre la politique tarifaire du géant pétrolier. Le cours de l'entreprise chute ce soir d'environ 15% de sa valeur à la bourse de Sao Paulo. L'Assemblée générale des actionnaires du groupe Total en France, perturbée aujourd'hui à Paris. Des militants de Greenpeace ont réussi à investir le Palais des Congrès pour prendre à partie dirigeants et actionnaires et attirer l'attention du grand public sur un projet de forage au large du Brésil qui pourrait, d'après l'ONG, mettre en péril le récif corallien du fleuve Amazon. François Chartier est chargé de campagne Océan à Greenpeace France.
Pour nous, c'est important d'être au cœur de la prise de décision chez Total, d'être face à son PDG, de pouvoir directement s'adresser au PDG de Total, mais également aux actionnaires, d'interpeller face à l'entêtement de Total, à ne pas entendre non seulement les messages de l'administration brésilienne, mais la mobilisation de masse, plus de 2 millions de personnes qui ont signé la pétition contre ce projet, ou les représentants des communautés autochtones au Brésil et en Guyane, et à persister à vouloir aller forer à côté de cet écosystème unique. Notre préoccupation, c'est que Total a l'intention de forer à proximité de ce qu'on appelle le récif de l'Amazone, c'est-à-dire un récif qui n'a été découvert qu'il y a à peine 2 ans, mais qui est déjà menacé par ces projets, notamment en cas de marée noire. Et on a voulu aussi mettre en avant les risques pour les côtes de la Guyane en cas de pollution. Au-delà des menaces que présente le projet au large de l'Amazone, mettre Total face à ses contradictions. Total se présente comme étant la majeure pétrolière championne de l'énergie verte, mais avec de tels projets de forage, notamment des forages ultra profonds, finalement, Total tourne le dos au sens de l'histoire. Aujourd'hui, la priorité devrait être d'investir dans des énergies renouvelables et pas d'aller chercher les dernières gouttes de pétrole qui restent là où les écosystèmes sont les plus menacés.
Des propos recueillis par Alexandre Locke. Faut-il rendre les œuvres d'art récupérées par le passé par la France à leur pays d'origine? La question n'est pas nouvelle. L'UNESCO y consacrait aujourd'hui une journée de réflexion avec des experts, mais aussi des ministres de la culture venus de tous les coins du monde. Le chef de l'État français, on le sait, est favorable à un retour du patrimoine africain sur le continent. Il a d'ailleurs nommé 2 experts pour une mission autour de cette question, un universitaire sénégalais, une historienne d'art française, elle s'appelle Bénédicte Savoie, et elle est interrogée pour France Culture par Valérie Crova.
À la fin des années 70, il y a exactement 40 ans, cette question des restitutions, avec ce titre-là, hein, restitution, retour des œuvres d'art, avait été beaucoup traitée avec des avancées très fortes. L'UNESCO, la société, les musées européens étaient tout près de restitution. Ils étaient à 2 doigts de le faire. Et pour une question qui m'échappe encore, on a rétropédalé sur ces questions. On a oublié tout ça. Donc non seulement c'est tombé à l'eau, mais on a même une amnésie totale, puisque nous-mêmes, Félouine Sarr et moi, qui avons été chargés d'une mission sur l'Afrique, sur le cas particulier de l'Afrique, par le président Macron, nous sommes tombés des nues quand nous nous sommes aperçus qu'il y avait déjà eu en 1981 une mission du même genre. Donc on trouve dans les dossiers des traces de ces missions et on peut dire aujourd'hui, 40 ans après, qu'il y a 40 ans, les choses ont été dites, pensées, voulues, en des termes qui ne sont pas très éloignés des nôtres. Ce qui a sûrement changé, c'est que maintenant, il y a une pression populaire bien plus forte, moins en Europe que sans doute dans d'autres pays. Les pays qui se considèrent comme les dépossédés ou qui ont été les dépossédés par les diasporas africaines, asiatiques dans le monde qui considèrent qu'il y a une équité perdue ou une équité à retrouver, une justice et une justesse des musées à retrouver. Il y a un réel désir, une réelle impatience que ça bouge. Il faut que ça bouge et c'est lié à un changement de génération probablement.
Voilà, le résultat de la mission confiée à ces 2 experts par le président de la République sera connu dans le courant de l'automne. Des propos recueillis par Valérie Crova. Et à noter que sur notre site internet franceculture.fr, vous pourrez poursuivre sur le sujet avec un article sur l'épineuse restitution des œuvres d'art au Bénin par la France. Un article signé du service multimédia de France Culture. C'est lundi, dans 3 jours maintenant, que doit être présenté en détail, mais sans chiffrage, le projet de loi de réforme de l'audiovisuel public. Parmi les projets dans les cartons du gouvernement, la baisse du nombre de chaînes de radio et de télé publiques, et notamment la fin de la diffusion via l'Hertzien, ou la fin tout court d'ailleurs, de France 4. Et ces menaces concernant la chaîne du service public directement dédié à la jeunesse et à l'enfance inquiètent beaucoup, notamment le syndicat des producteurs de films d'animation. Les explications de Camille Magnard.
Le premier risque, il est économique pour la filière française du dessin animé qui verrait l'un de ses principaux débouchés disparaître. Stéphane Lebars est le délégué général du SPFA.
Cette chaîne France 4 permet en fait d'exposer les programmes d'animation français installés sur le territoire. Donc sa disparition entraînerait des conséquences à terme sur la compétitivité de cette industrie à l'échelle internationale.
Cette histoire ne tient pas debout.
C'est souvent le cas des séries pour enfants.
Le tout dans une filière, l'animation française, qui a créé près 1 millier d'emplois ces 2 dernières années. Mais les producteurs de dessins animés pointent aussi le risque pour leur public, les moins de 12 ans. L'offre de France 4 en journée, ce sont des programmes enfants de qualité, contrôlés et sans publicité.
L'opération Détournons leur attention fonctionnera si on s'y met tous ensemble.
D'accord, ouais. Basculer France 4 sur le numérique, c'est encore exposer davantage les enfants au danger d'un Internet qui est non régulé, non sécurisé, contrairement aux médias télé qui est très encadré et sécurisé.
Chère télé, voici un dessin de moi en train de t'écrabouiller.
Face à une réforme qui voudrait faire basculer l'audiovisuel public dans le tout numérique, c'est donc le très jeune public qui pourrait finalement sauver la diffusion. Hertzienne.
Le Hertzien a tout à fait une raison d'être pour ce public notamment. puisque ça permet de contrôler et encadrer ce que nous proposons à nos enfants, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'accompagner d'une politique digitale, mais c'est déjà ce qui est fait par France Télévisions. Et c'est vrai que tous les services publics européens, il n'y en a pas un seul qui a abandonné sa diffusion hertzienne pour basculer dans un tout numérique.
Et c'est là toute l'ambiguïté, conclut le SPFA, d'une réforme qui dit vouloir mettre la jeunesse au centre de l'audiovisuel public, mais qui semble prête pour cela à oublier les moins de 12 ans.
La ferme enchantée a été annulée à cause d'un manque de téléspectateurs.
Voilà, reportage de Camille Magnard. La fin des guignols de l'info sur Canal+, après 30 ans d'antenne et de participation plus ou moins influente à la vie politique du pays. Le programme emblématique de Canal+ ne reprendra pas sur la grille de rentrée en septembre. L'annonce a été faite en début d'après-midi par Vincent Bolloré lors d'un comité d'entreprise de Canal+. C'est l'heure de retrouver l'enquête de cette édition avec le service investigation de Radio France. Après la polémique de la semaine sur le glyphosate, arrêtons-nous quelques minutes sur les pouvoirs et les pratiques des lobbyistes. Bonsoir Marjolaine Corr.
Bonsoir.
Vous avez enquêté sur ces questions avec Isabelle Souquet.
Oui, alors c'est une profession qui est censée afficher plus de transparence en s'inscrivant notamment dans un registre des représentants d'intérêts. Sauf que le détail de leurs relations avec les élus reste encore assez opaque, avec parfois aussi des méthodes un peu limites. Ce que revendique Thierry Coste, hein, c'est un lobbyiste, on va dire, atypique, qui a aujourd'hui l'oreille du président de la République sur la chasse et la ruralité. Et pour obtenir de l'information, il est prêt à aller très loin.
Je suis un spécialiste du renseignement. Je cherche aussi du renseignement dans les groupes de pression opposés. Donc j'infiltre les groupes de pression, c'est une de mes spécialités, notamment dans les associations de consommateurs, les ONG environnementales, dans les syndicats, dans tous ceux qui peuvent venir aux intérêts de mes clients. Mais à part ce code d'honneur qui est de respecter les lois, les règlements, de ne jamais pratiquer la corruption et de ne jamais pratiquer les polémiques sur les affaires de sexe ou d'argent, pour tout le reste, je suis sans foi ni loi.
Pour les lobbyistes, l'enjeu, c'est donc de récupérer l'information au plus près du pouvoir en ciblant par exemple les petites mains, comme les assistants parlementaires. Alors jusqu'à l'été dernier, les lobbies pouvaient les recruter à mi-temps. Ce n'est plus le cas. Ce qui n'empêche pas ces assistants d'être toujours très recherchés par les grands groupes, même quand ils ont quitté leur poste, comme l'explique l'ex-députée écologiste du Calvados, Isabelle Attard.
J'avais une collaboratrice qui a quitté mon équipe en juillet 2016 et qui a de suite été contactée par ses cabinets de conseil. Elle n'était pas ma collaboratrice sur Paris, elle était en circonscription et donc on pourrait penser que ça intéresse moins les cabinets de conseil. Et malgré tout, elle a été sollicitée. C'est dire à quel point les lobbyistes recherchent à tout prix d'avoir un contact le plus près possible des élus.
La recherche du contact à tout prix, au plus près du terrain donc, mais aussi parfois au plus près des ministères. Écoutez le témoignage de Marisol Touraine. Elle se souvient d'un étrange épisode lorsqu'elle était ministre de la Santé, alors qu'elle tentait de faire passer le paquet neutre dans la loi tabac.
Une assistante avait été retrouvée dans une situation qui, en tout cas, amenait à se poser des questions, puisqu'elle cherchait à consulter des documents qu'elle n'avait pas à consulter naturellement. Dans le doute, nous l'avons écartée des endroits où elle pouvait accéder à ces documents.
Voilà, et pour essayer d'être au mieux avec certains élus, il y a des techniques chez les lobbyistes qui ont fait leur preuve, Marjolaine.
Oui, comme proposer à un parlementaire d'être la tête d'affiche d'un colloque pour mettre en valeur son travail. Colloque qui se déroule dans les murs de l'Assemblée nationale. C'est tout bénéfice pour le cabinet de lobbying qui l'organise. Et cette formule, elle a été inventée il y a plus de 20 ans par Hervé Maurey et sa société de lobbying. Il est aujourd'hui sénateur centriste de l'autre côté de la barrière.
Ça valorise un parlementaire d'organiser un colloque, d'avoir une salle avec 200, 300 personnes, d'avoir à la tribune les gens qui comptent sur le sujet, d'avoir, si on fait bien son boulot, des retombées presse. C'était ça, d'ailleurs, un peu notre idée de base, de dire aux parlementaires, écoutez, on va vous organiser un colloque, ça va valoriser votre travail, ça ne vous coûtera rien parce qu'on trouve les financements. C'est une idée qui a prospéré parce que c'était intéressant pour les parlementaires.
Enfin, il y a le lobbying qui ne dit pas son nom, l'entre-soi entre ses cabinets d'influence et le pouvoir. Nous avons passé au crible le CV des 298 collaborateurs de tous ces cabinets ministériels. Résultat, 43 ont effectivement travaillé à un moment de leur carrière dans le lobbying. Et la palme revient au ministère du Travail. Sur les 9 employés du cabinet, 4 ont travaillé dans le lobbying et 2 dans les relations sociales pour le MEDEF.
Merci Marjolaine Corr. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Des honneurs militaires ont été rendus cet après-midi aux Invalides à Paris. Paris à Serge Dassault, décédé cette semaine. Serge Dassault, un visionnaire et un patriote, d'après les mots du Premier ministre Édouard Philippe. Un temps plus ensoleillé demain avec toutefois toujours un risque orageux sur les différents reliefs et une matinée parfois pluvieuse sur de nombreuses régions. Les températures au lever du jour varieront de 10 à 15 degrés. Elles monteront pour atteindre au plus chaud de la journée de 23 à 28 degrés.